J'ai tenu à survivre. J'ai tenu à ce que l'amertume ne me gagne pas. Je tiens à ce que ma vie continue, même s'il a volé ma jeunesse, même s'il a volé mon innocence, parce que si je ne continue pas à vivre, si je ne pense pas à l'après, ça veut dire que je l'ai laissé gagner.
Podcast by Tendance Ouest. Fait de vie, Philippe Bertin.
Bonjour, vous êtes Céleste Akiki, vous êtes la nièce de Mansour Labaki, qui fonda en 1990 à Douvres la Délivrante, près de Caen, le foyer Notre-Dame des orphelins du Liban. Mansour Labaki, qui a été déchu de ses fonctions de prêtre qu'il exerçait à l'époque, a été condamné par la cour criminelle du Calvados à 15 ans de réclusion criminelle, reconnu coupable de viol sur mineur. Mansour Labaki n'était pas présent lors de son procès, il vit aujourd'hui au Liban, qui refuse d'extrader ses ressortissants. Vous avez été, Céleste, vous-même abusée par votre oncle et vous avez assisté à ce procès en novembre 2021 à Caen et vous avez témoigné. Première question que je souhaite vous poser, que représente pour vous cette condamnation de la cour criminelle du Calvados ainsi que la décision qui a été rendue publique du pape François tout récemment de renvoyer, nous sommes à un an de son procès, de renvoyer Mansour Labaki de son état clérical.
Oui, bonjour Philippe. Moi je pense que si la décision du pape a eu lieu, c'est parce que la condamnation de Labaki a eu lieu en novembre par le tribunal à Caen. Et essayer d'exprimer ce que j'ai ressenti ce jour-là et ce que je ressens toujours, mais surtout ce soir-là, c'était une émotion très forte, un soulagement, une joie profonde que finalement les victimes et survivants de Labaki ont été reconnus, leur parole a été reconnue, on nous a cru parce que pendant des années Labaki disait qu'on avait menti, que j'avais menti, il nous a attaqué, il nous a calomnié, donc finalement voir qu'on a été cru et validé, c'est vraiment c'est beaucoup plus qu'un soulagement. Et en plus, voir que le Vatican a suivi, a complété cette condamnation, c'était vraiment une suite logique. Donc là, vraiment, même si j'ai fait une thérapie dans le passé, même si du point de vue émotionnel, bon, j'ai fait ce que je souhaitais faire, mais là, le tribunal, la justice française et la décision du Vatican nous ont aidé les survivantes vraiment à tourner la page.
Vous parlez de soulagement, c'est une espèce de délivrance ?
Absolument, parce que vous savez, quand les victimes et survivantes ne sont pas crues, c'est comme si vous êtes abusées, enfin, c'est comme si elles sont abusées une autre fois, encore une fois, et encore plus, et de nouveau. Donc c'est une blessure. Dire que nous traiter de menteuses, c'est une insulte, quoi.
Quel sens vous donnez aujourd'hui, Céleste, à votre témoignage? Parce que vous osez parler un an après le procès. Je disais que vous aviez témoigné à ce procès, mais aujourd'hui votre parole est très forte, justement après la décision rendue publique du pape François.
C'est-à-dire, moi, j'ai témoigné la première fois au tribunal religieux de Paris en octobre 2011. Et moi, enfin, vous savez, c'est très important pour moi d'ajouter ma parole, d'ajouter mon témoignage celui des survivantes. Parce que je me souviens très bien, quand j'étais adolescente, quand j'étais abusée par mon oncle au Liban en temps de guerre, et je me souviens très bien, le dialogue que j'avais dans ma tête, les paroles que j'avais dans ma tête, je me disais, il n'y a personne, aucune victime qui en parle dans les médias, que ce soit à la télévision, que ce soit à la radio, personne. Et je me disais déjà, en tant que mineure, s'il y avait au moins une seule personne, je serais la deuxième. Et je me souviens tellement de ces mots dans ma tête que je sais l'importance de... C'était un tabou, c'était vraiment un tabou total. Hein. Et je connais l'importance de ce traumatisme, la tragédie de ce traumatisme. Et je sais combien c'est important de briser ce tabou. Et chaque parole peut aider à continuer à briser ce tabou.
Podcast by Tendance Ouest. Fait de vie, Philippe Bertin.
Rappelez-nous, Céleste, s'il vous plaît, le contexte dans lequel votre oncle a commis sur vous les agressions dont vous avez été victime. C'était donc au Liban, hein. On ne parle pas de Douvres la Délivrande, là, puisque c'était au Liban où vous viviez. Je rappelle d'ailleurs que vous êtes aujourd'hui, vous êtes loin du Liban, puisque nous parlons en ce moment, vous êtes aux États-Unis.
Je suis aux États-Unis, oui, et j'ai tenu à être présente le 8 novembre 2021, aussi à la demande de Maître Solange Dumic, que je remercie du fond du cœur avec ses collègues pour tout le travail qu'elles ont fait, parce que c'est grâce à elles aussi que la Baki a été condamnée. Et j'ai tenu à être présente parce que aucune distance ne me fera manquer cette occasion. J'attendais, nous toutes, les survivants de la Baki, on attendait ce jour-là. J'ai été abusée, vous savez, j'ai été abusée au Liban à l'âge de 14 ans, en temps de guerre. J'ai perdu mon père à l'âge de 13 ans d'une hémorragie cérébrale, subitement. Et j'étais très proche de mon père, et pour moi, c'était une grande tragédie. Et donc, la guerre de 1975 a commencé au Liban. Et c'est à l'âge de 14 ans, après la mort de mon père, que j'ai été abusée par mon oncle. Et donc, j'étais dans l'impossibilité de dire quoi que ce soit.
Pourquoi?
Je vais vous dire. Il était très célèbre. C'est quelqu'un qui a une très forte personnalité. Il a un grand charisme. Toutes les personnes qui l'ont rencontré diront que vraiment c'est il est très charismatique. C'est-à-dire à la limite, enfin, vous l'admirez énormément. Moi, je l'ai vu en France et au Liban devant des foules, il captivait les foules. Hein. C'est quelqu'un qui captive les foules. C'est quelqu'un qui charme énormément. Il a beaucoup de charisme. Il a une capacité de convaincre, mais vraiment une grande capacité de convaincre les gens autour de lui, de convaincre un public. Et donc, il avait une très grande célébrité et il était intouchable. Il avait un statut intouchable au Liban. Donc, moi, quand j'étais abusée, je me disais, qui va me croire entre Mansour Labaki, le célèbre Mansour Labaki, l'intouchable, et Céleste Hakiki, sa nièce et adolescente. Donc, si j'avais dit quoi que ce soit, j'aurais été facilement internée ou mise en prison, ou bien facilement. Deuxièmement, le Liban était en état de guerre et les chrétiens sont une minorité au Liban. Donc, je me disais, moi, chrétienne, en plus, témoigner à ce moment-là, c'était une situation où je me disais, mais les chrétiens vont m'attaquer aussi, quoi. C'était, à tous les points de vue, c'était impossible de dire quoi que ce soit. En plus, la justice libanaise n'avait pas encore eu affaire à un cas comme celui-là. Pardon, excusez-moi. Comme quoi, un témoignage d'abus sexuels, de pédophilie, la justice libanaise n'était pas prête, quoi. Je ne sais toujours pas si elle est prête maintenant. Donc, c'est pour ça que c'était impossible de dire quoi que ce soit.
Et cet homme, vous m'avez dit d'ailleurs, m'a volé, enfin ce que vous disiez, a volé l'innocence de mon enfance. Est-ce que vous pouvez me dire aujourd'hui ce que vous avez pu ressentir précisément au cours de toutes ces années et jusqu'à son procès devant la cour criminelle du Calvados? Je rappelle, c'était en novembre 2001 et vous avez été abusé, vous, dans les années 70, vous faisiez référence à cette situation au Liban pendant l'état de guerre.
C'est-à-dire que chaque fois que j'ai témoigné, chaque fois que toute survivante témoigne, vous replongez là-dedans. Vous savez, même si j'ai fait une thérapie, mais bon, et heureusement, vous replongez là-dedans et ce n'est pas évident. Parce que c'est reprendre tout ça, raconter tout ça devant des gens que vous ne connaissez pas. Voilà, à chaque fois. Mais
on se sent victime, on se sent coupable ou victime ?
Avant, auparavant, dans le passé, j'avais des sentiments de honte, de culpabilité. Ben, pour moi, dans mon cas précisément personnel, de culpabilité. Pourquoi ? Parce que juste avant la mort de mon père, après qu'il ait eu la crise d'hémorragie cérébrale, il ne pouvait pas s'exprimer, mais le spécialiste avait dit, s'il vous plaît, pas de sel, pas bon. Il y avait des interdictions. Et mon père. On dînait, il avait pris le sel. Et moi, je le prenais de ses mains et bon, il le reprenait. Bref, je me suis mise en colère et j'ai dit à mon père, papa, tu peux pas manger du sel. Tu peux pas, sinon tu vas mourir. Tu veux mourir, eh bien, meurs et que l'on finisse. Et c'était la dernière chose que j'avais dit à mon père. J'ai été dans ma chambre et c'était la dernière chose que j'avais dit à mon père. Le fait d'avoir dit à mon père, voilà, meurs et que l'on finisse. Et je savais très bien en tant qu'adulte par la suite que c'était pas mes paroles qui l'avaient tué, mais j'étais adolescente. Et c'est pour ça que quand j'ai été abusée par mon oncle, je me sentais coupable. Je sentais que j'étais quelqu'un d'horrible parce que j'avais dit à mon père, meurs et qu'on en finisse.
C'était comme s'il s'agissait d'une punition ?
C'est comme si j'étais, c'est-à-dire que je ne méritais pas de me défendre de mon état de victime. Vous voyez ce que je veux dire ? Je savais que je ne méritais pas ce qui se passait, je ne méritais pas l'abus. Mais comme je me sentais coupable, vous voyez ce que je veux dire, de ce que j'avais dit à mon père avant sa mort, et c'est pour ça que j'étais écrasée par un sentiment de culpabilité, un sentiment de, en plus de sentiment de honte, toutes les victimes et survivantes aussi ont ce sentiment de honte, parce que même si nous sommes innocentes, vous savez, les victimes et survivantes sont innocentes, à 100%, il n'y a pas à discuter, hein. Mais il y a un sentiment de honte qui nous submerge, parce que nous savons très bien que ce n'est pas normal, ce qui se passe. C'est-à-dire, j'aimais mon oncle, comme toutes les victimes, les survivantes de mon oncle aussi, j'aimais mon oncle comme sa nièce. Mais c'est pas ma faute si lui, il a transformé cet amour en quelque chose d'autre, parce que c'est un manipulateur pervers. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est sa faute à lui, c'est lui qui est coupable. Mais lui, parce que c'est un machiavélique, il a une façon de rendre, de faire sentir aux victimes que moi, ce que je fais, bon, je suis dans son abattis, je suis le centre du monde. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, les victimes sentent c'est ce sentiment de honte et de culpabilité. Donc, pour revenir à ce que vous m'avez posé, enfin, à la question dont vous m'avez posé, victime ou coupable, c'est-à-dire au début, c'est vrai, il y avait un sentiment de victime, de coupable, d'être un sentiment de culpabilité. Mais moi, avec la thérapie, ben, je traversais, bon, j'étais au-delà. Mais nous avons été victimes. Et même si nous sommes maintenant survivantes, et je tiens à le dire, nous sommes survivantes.
Qu'est-ce que ça veut dire être survivante ? Vous utilisez ce terme très très souvent. C'est de la survie aujourd'hui, votre vie à vous, Céleste ?
Vous savez, survivante parce que nous avons eu le courage de survivre à cette tragédie. C'est quelque chose, vous savez, avec la thérapie, bon, j'ai fait une thérapie, heureusement, mais la thérapie n'efface pas le passé. J'ai appris à vivre avec. Et je dis survivante, pourquoi ? J'ai survécu, et les autres aussi. Et donc, j'ai tenu à survivre, j'ai tenu à ce que l'amertume ne me gagne pas, je tiens à ce que ma vie continue, même s'il a volé ma jeunesse, même s'il a volé mon innocence, parce que si je ne continue pas à vivre, si je ne pense pas à l'après, ça veut dire que je l'ai laissé gagner.
Vous m'avez dit, j'ose aujourd'hui être heureuse et je ne suis pas dans la vengeance. Qu'est-ce que ça signifie ?
C'est-à-dire, premièrement, je me donne la permission maintenant d'être heureuse. Et ça, heureusement qu'il a été condamné. Heureusement qu'il y a eu la décision du Vatican. C'est comme ça que je vois la vengeance. La vengeance en tant que telle, se venger de la Baki, vous savez, ça ne sert à rien. La vengeance, on l'a eue déjà par la condamnation, par sa condamnation et par le fait qu'il a été rendu à l'état laïque. Ça, c'est déjà vraiment des étapes très importantes. Et la vengeance de chaque victime et de chaque survivante, la vengeance personnelle, notre vengeance à nous, ce sera de vivre notre vie. Ma vengeance à moi, ce serait de vivre la vie que j'ai envie de vivre, que j'avais envie de vivre quand j'étais adolescente avant d'être abusée par mon oncle. Et voilà. J'essaie de renouer maintenant avec les rêves que j'avais, avec ce que j'étais. J'étais pleine de créativité, pleine d'émerveillement. Enfin, j'étais émerveillée devant la vie. Et ma vengeance, c'est de renouer avec tout ça et d'être fidèle à ce que j'étais et d'être fidèle à cette petite fille et à ses rêves, à ses désirs. Et je vais continuer et je vais continuer ma vie, et surtout après tout ça.
Fait de vie, Philippe Bertin.
Mansour Labaki, je l'ai déjà dit au début de notre entretien, vit au Liban aujourd'hui, puisqu'il n'a pas assisté à son procès. Il refuse tout contact avec les médias, ni les faits qui lui sont reprochés, et donc il n'est pas en prison, hein, je le rappelle. Si vous l'aviez en face de vous, qu'auriez-vous à lui dire ?
Ben, ce que je lui dirais, c'est arrête ton cinéma, arrête de mentir et arrête de te mentir. C'est quelqu'un qui s'est toujours considéré au-dessus de la loi, au-dessus des autres. Il s'est considéré comme le centre du monde, le centre de la famille Labaki, premièrement, le centre de la communauté chrétienne, le centre du pays où il était, le centre du monde, tout simplement. Et là vraiment, ça, il a joué, c'était un cirque autour de lui. Il a joué un rôle. Il a joué un rôle à la perfection. Et voilà, je lui dirais arrête au cinéma et arrête de te mentir.
Dans votre parcours de reconstruction, et ce sera ma dernière question, est-ce qu'il y a aujourd'hui, Céleste, une place pour le pardon à l'égard de votre oncle ?
Oui, il y a une place pour le pardon. Bien, auparavant, il n'y avait aucune place. Hein. Mais maintenant, il y a une place pour le pardon, mais... je voudrais vous dire que Labaki, lui, il ne demandera jamais pardon. Juste pour vous dire que lui, avec ses partisans, ben, lui, il a dit à ses partisans que moi, je pardonne aux victimes qui ont menti. C'est-à-dire, il s'est placé comme un saint et il a dit qu'il nous pardonnait. À nous. Voilà. Donc, moi, je suis prête à pardonner. Mais... lui, il ne va pas demander pardon. Et je sais, il y a une chose, je voudrais juste signaler une chose. Les chrétiens, enfin certains chrétiens qui disent tout de suite à des victimes qui viennent de parler, qui viennent de témoigner, il faut pardonner. Honnêtement, vaut mieux ne pas dire ça, parce que il faut laisser à chaque victime le moment opportun de pardonner, si elle veut pardonner et si elle peut pardonner. certains chrétiens qui sautent tout de suite en disant oui, il faut pardonner, honnêtement, c'est une insulte. C'est une insulte. Donc, c'est à chaque victime de choisir le moment qu'elle veut, et si elle veut, et si elle peut. Donc, et voir aussi si le pédocriminel lui-même, s'il a demandé pardon. Et dans ce cas-là, la Baki n'a jamais demandé pardon, et je doute fort qu'il le demande.
Merci beaucoup pour votre sincérité, pour votre témoignage, Céleste. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter ?
Vous savez, il y a un proverbe en anglais qui dit « The best is yet to come ». Pardon, le meilleur reste à venir. Je veux croire que même si j'ai perdu ma jeunesse, même si j'ai perdu l'innocence de mon enfance, et je veux croire aussi que le meilleur aussi reste à venir. Voilà. Et je le souhaite à toute victime et à toute survivante.
Merci beaucoup.
Merci à vous, Philippe. Au revoir.
Au revoir. Podcast by Tendance Ouest.